vais dire maintenant pourquoi je trouve que le travail de Yann est... J'ai essayé de carrer un peu j'ai essayé de me mettre dans les interstices de ce que fait Yann. Pour moi, dans le travail de Yann, il y a deux ou trois choses qui sont vraiment très importantes. D'abord, le bouquin qu'il a fait avec Confrontation, qui est un livre. C'est la première enquête depuis. Ça faisait longtemps que plus personne n'osait faire des typologies catholiques. Et je pense que c'était parce qu'on ne savait plus comment les faire. Et ça participe de la crise de la fin du XXe siècle. Et je trouve que c'est important de l'avoir fait. Et la manière de le faire, c'est-à-dire en mettant l'accent, pour moi, dans la typologie, sur la question de l'engagement, davantage peut-être que sur la question de la pratique, est très intéressant. Parce qu'un des problèmes qui se pose au catholicisme aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une religion. Après tout, il y a toujours entre 40 et 55% des Français qui se disent catholiques. Mais la plupart d'entre eux ne pratiquent plus. C'est vrai. Est-ce qu'ils sont toujours catholiques? Moi, je suis historien. Si quelqu'un me dit qu'il est catholique, je le crois. Après, ça pose effectivement des vrais problèmes en termes religieux. Et notamment, et c'est à la fois le point sur lequel je rejoins Guillaume et le point sur lequel je me sépare de lui, le point sur lequel je discute avec Guillaume Buchet, quand Guillaume met l'accent sur la disparition de la confession, il a raison. Il a raison parce que ça pose la question de savoir ce que peut être une religion non sacramentelle, un catholicisme non sacramentel. Et donc là, il y a de vraies interrogations, de vraies discussions à avoir. Mais ça n'est pas forcément la disparition du catholicisme. C'est juste, est-ce qu'on peut concevoir surtout dans le catholicisme, où le sacrement est quand même central, est-ce qu'on peut concevoir un catholicisme non sacramentel? Un catholicisme où le sacrement ne soit plus central pour un sacramentel? Ça, c'est une vraie question que je réserve aux théologiens, parce qu'il y en a de bons ici. Ce que je veux dire, c'est que toutes ces questions internes, y compris dans leur dimension théologique forte, sont liées à l'évolution globale de la société. Et là, je trouve que dans cette enquête, il y avait quelque chose pour moi d'absolument passionnant. Le premier qui avait un peu effleuré ça, c'était Donegani. Son livre n'a pas eu l'écho qu'il a eu, parce que le livre de Donegani, c'est un livre qui date du début des années 90. Et puis Donegani a été pris dans un conflit avec Émile Poulain, un conflit de savants avec Émile Poulain et avec le modèle intransigeant. Mais je trouve que ce livre-là, pour moi, a été très important. Et pour en venir à la contre-révolution catholique, je dirais deux choses, et je vais finir très vite. Premièrement, Yann n'est pas le seul à travailler sur ces sujets-là, mais il est le seul à prendre en compte, à travailler, je veux dire comme ça, à travailler du point de vue des acteurs. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a une véritable empathie, une empathie critique. Je ne suis pas en train de dire que c'est qui roule, je ne suis pas en train de dire que Yann roule pour la manif pour tous, mais il y a dans la démarche une véritable empathie à l'égard des gens qui marchent dans ces manifestations. Et ça, c'est extrêmement précieux. C'est extrêmement précieux parce que c'est l'empathie critique qui nous permet de comprendre les choses. Et puis l'autre aspect, pour moi, est très, très important, mais ça tu l'as dit, et je le dis bien très vite, c'est la dimension des faiseurs historiques. C'est-à-dire, c'est tout ce que Yann a montré sur la genèse de ce mouvement au cours des années 80-90. Je suis en train de finir, j'ai rendu cette nuit à 4h du matin un manuscrit pour mon éditeur, et j'ai travaillé sur ces choses-là, et je suis de plus en plus convaincu qu'il y a eu dans le catholicisme français post-conciliaire, et il faudra qu'on revienne sur la question du concile et de son héritage et de son actualité, mais il y a eu dans le catholicisme post-conciliaire, il y a eu la crise au moment où il est sorti, mais ça c'est normal, et il y a eu ensuite une vingtaine d'années de silence. Les années 80-90, où à part l'affaire Gaillot et deux, trois affaires à droite à gauche, c'est un peu silence dans les rangs. C'est un peu silence dans les rangs parce qu'on est en danger et qu'il faut serrer les coudes. Et là, il y a une vraie révolution silencieuse. C'est Céline Béraud qui a en tête l'expression de révolution silencieuse du catholicisme français, pas de moi. Il y a une vraie transformation silencieuse. Et cette transformation silencieuse a laissé en suspens un certain nombre de questions, dont les questions de genre. Qui ressortent en 2000 au Marx, ce que tu disais tout à l'heure, dont les questions du genre. Mais au cours de cette révolution silencieuse, il y a des choses qui se sont fabriquées, dont la genèse de la manif pour tous. Et au moins pour ces deux raisons, je ne veux pas parler plus longtemps, au moins pour ces deux raisons, plus la troisième concernant le bouquin précédent, je trouve que ce que fait l'effet Yann est extrêmement important. Et ce livre, pour moi, j'en ai parlé, j'ai consacré une séance de mon séminaire, puis on en avait parlé dans d'autres conditions avec toi, je trouve que ce livre est très important, pour les raisons que j'ai données. Et les écarts que je peux avoir avec ce que dit, les écarts que vous avez peut-être entendus tout à l'heure, avec ce que dit Yann, c'est des écarts, c'est du travail, c'est comme ça qu'on travaille. Et je pense que ce livre est vraiment un livre important. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci bien. Je pense qu'il y a déjà matière à ample échange. Peut-être que Yann voulait réagir très brièvement, parce que je pense que notre souci à tous, c'est de vous donner la parole et qu'on puisse converser.
Oui. Tout d'abord, merci à Denis pour tous ces éléments passionnants de discussion et pour ces bons mots sur mon livre et sur ma démarche. C'est vrai que... pour moi, c'est important de travailler du point de vue des acteurs, ce qui est un positionnement méthodologique auquel je suis venu progressivement sous diverses influences, dont celle de Jacques Lagroix n'est pas la moindre, et qui n'allait pas de soi venant d'une sociologie plutôt bourdieusienne où le pendant explicatif dominait sur le compréhensif. Et c'est un peu lassé par ces effets-là que j'ai cherché à penser. Et puis c'est Jean-Clément Martin, aussi un historien qui a beaucoup compté dans ma manière de faire, de penser l'histoire du point de vue de ceux qui la font. Dans sa manière de penser l'événement, c'est ce qui m'a fait un peu basculer de ce côté-là. Alors, moi, il y a des tas de questions. Quand j'ai écrit Contre-Révolution catholique, je l'ai écrit parce que c'est un livre dont j'avais besoin pour comprendre des choses que je ne comprenais pas. C'est pour ça que j'ai fait cette enquête, c'est parce que il y a un moment, je me disais finalement, ce qui se passait me surprenait et je ne comprenais plus. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de problèmes que je soulève. Il y a plein de problèmes passionnants et qui ne sont pas des questions tranchées. Alors, par exemple, il y a la question du catholicisme post-sacramentel. Quand j'ai travaillé sur l'ordre dominicain dans les années 60-70, je m'étais pris de passion pour ce qu'on appelait les communautés de base à l'époque, c'est-à-dire cette volonté d'essayer de refonder une église non hiérarchique, d'actualiser l'évangile dans un catholicisme, dans le creuset de la culture contemporaine. Et j'avais été assez fasciné par ça. Un peu enthousiasmé aussi, et j'avais beaucoup lu, c'était lors de ma thèse, j'avais beaucoup lu Michel de Certeau, et cette idée qu'il affirme que, il écrit ça dans le christianisme éclaté, il écrit « Aujourd'hui, de plus en plus de catholiques s'estiment, enfin, de plus en plus de, je ne sais plus quelle est sa formule, de plus en plus... de catholiques, enfin, s'estiment d'autant plus catholiques qu'ils assistent moins à la messe, parce qu'ils ont l'impression d'avoir rompu avec finalement le stade infantile quelque part de leur foi. Et ça m'avait beaucoup interrogé, et c'est pour ça qu'avec l'équipe de confrontation, quand on a travaillé sur la description du catholicisme, on a choisi de travailler sur les catholiques engagés et de pas du tout s'intéresser à la question de la pratique. Parce que quand on travaille sur de multiples organisations catholiques, on voit des bénévoles qui passent un nombre d'heures à s'occuper de gens dans l'extrême pauvreté, qui le font sciemment au nom des évangiles, qui sont habités par une figure de Jésus, mais qui par ailleurs ne vont pas spécialement à la messe. Et pour moi, il y avait là une forme de pratique, une forme d'engagement catholique qu'il fallait valoriser en s'affranchissant de la seule échelle de pratique. Et effectivement, on a essayé de multiplier les visages d'engagés pour montrer toutes les différentes formes d'attachement qui cohabitent dans le rapport à l'Église et toutes les différentes manières de vivre l'Évangile, de vivre une fidélité à l'Évangile, une fidélité existentielle, dans des engagements décisifs, coûteux, risqués, mais qui ne se réduisent pas, loin de là, à la pratique cultuelle. Bon. Donc, et puis, je vais vite. Et puis, en travaillant sur Contre-Révolution catholique, là, je me suis... Alors, c'est vrai que là-dessus, le livre de Guillaume Puchet a un peu compté. et un travail que j'ai esquissé, sans, mais que voilà, pour l'instant qui n'est pas abouti, c'est la question des monographies familiales. Comment est-ce que la foi s'est transmise au sein des familles depuis les années 70? Et là, j'observe que ceux qui ont été dans ce catholicisme post-sacramentel des années 70, eh bien, c'est, je dis ça pour l'instant, bien que l'enquête ne soit pas encore achevée, mais tendanciellement, ils transmettent moins la foi que ceux qui sont restés dans une pratique sacramentelle. Et donc, bah, se pose là une question, qui est pour ça que ça m'a inspiré ce terme de contre-révolution, c'est que bah, finalement, bah, ceux qui sont restés attachés à la culture de l'obligation, qui ne sont pas sortis de cette matrice-là, ils arrivent mieux à se reproduire et à perpétuer la foi en leur sein, et donc, ils restent, alors que les autres, bah, les parents étaient militants, les enfants le sont moins, ou ils revendiquent des valeurs. Et ça, ça pose pour moi une vraie question dans le devenir du catholicisme. Et c'est pourquoi, même si aujourd'hui, bah, les observants, ils sont minoritaires, bien sûr, mais leur simple capacité de perpétuation me semble avoir une portée de restructuration de l'Église. Que n'ont pas aujourd'hui, me semble-t-il, ces catholiques engagés, qu'on les appelle catholiques de gauche, pour aller vite, des années 70, alors que leur postérité est très importante. Ils ont une postérité très importante. Mais elle est autre. Et le rapport de force se construisant dans l'Église, qu'on le veuille ou non, enfin je veux dire, là c'est se construisant finalement sur un rapport à la pratique, sur la capacité aussi à faire des prêtres, eh bien, il y a une sorte de possible qui, me semble-t-il, pour l'instant, se referme. Mais ensuite, je ne suis pas du tout convaincu de ce que vont devenir les observants. Il ne faut jamais oublier que ce qu'a été le catholicisme des années 60 est sorti d'un catholicisme formé sous le pontificat de Pie XII dans une matrice extrêmement intransigeante, et que si on regardait les catholiques, finalement, des années 50, on aurait, certains militants catholiques des années 50, on n'aurait pas soupçonné ce qu'ils seraient devenus. Donc, il y a des choses qui peuvent se réouvrir. Mais la question de la pratique et du sacrement, me semble-t-il, reste quand même majeure dans la structuration de l'Église aujourd'hui.
Merci. Alors, à vous la parole. On va essayer d'avoir un maximum de remarques et de questions. Donc, je vous invite à la sobriété dans vos interventions. La concision, plutôt. Voilà.
Bonsoir. Merci beaucoup pour votre double intervention. Ma question porte sur ce qui s'est passé depuis 2012-2013. Parce qu'il y a quand même un nouveau pape qui a publié une encyclique qui a eu un écho médiatique extrêmement puissant, où elle a rappelé le lien entre justice sociale et justice écologique. Un pape qui prend aussi régulièrement la parole sur les questions d'hospitalité. Et est-ce qu'au fond, ce pape, enfin, ces thèmes d'hospitalité ou d'écologie sont tout de même importants pour une troisième génération de catholiques qui correspondrait peut-être à la troisième génération du Concile. Je dis ça en pensant à une intervention de Albert Rouet qui expliquait que le Concile se recevait sur trois générations, et si on suit cette tripartition dans les générations du Concile, il y avait les cathos de gauche, première génération, les cathos de droite, deuxième génération, puis de la troisième génération. Est-ce que c'est une recomposition qui m'a fait une sorte de fluctuation entre différentes positions, là, enfin, quel quid de la troisième génération?
Alors, si mes invités sont d'accord, on va prendre 2-3 questions. Je pense qu'ils prendront des notes et puis on répartira leurs réponses, hein, pour en avoir un maximum. Allez-y.
Vous disiez que l'Église n'était pas responsable de l'histoire de la famille. Oui, non, elle n'est pas responsable. Elle était conseillère de l'histoire. Elle n'est pas non plus responsable des valeurs, parce que je suis un peu étonné. Quand on parle des lois politiques, c'est le docteur Léonetti qui les a écrites d'une façon consensuelle. Il nous a bien dit qu'il ne s'affichait pas comme catholique, hein, parce que les lois de bioéthique s'appuient sur la politique médicale qui est hippocratique, et les médecins sont tenus suivant certains principes. Et donc il y a une remise en cause des valeurs, pas seulement des valeurs chrétiennes, et que les chrétiens sont en tort de s'attribuer d'être proches des valeurs. D'ailleurs, je suis en ce moment, je participe à l'appel à Fontaine d'Abraham. Je vais y aller dimanche à la première de mars. Je lis la revue. Dans la revue, il y a un article de ce livre qui est écrit et qui se rappelle l'importance des valeurs. Il cite simplement que la frontière d'Abraham, on est arrivé au déclaration Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme, qui ont été écrites par René Cassin, d'ailleurs, qui est injuste. Quoi. Ces valeurs ne concernent pas seulement les catholiques. Bon, j'aurais d'autres choses à vous dire.
Merci. Une troisième question, puis après on fera une petite pause avec les réponses de nos invités. Une troisième question ? Ou remarque, bien sûr. Alors soyez brève, madame, je vous en supplie, soyez brève, madame.
Une religion ne rassemble pas une autre. Les valeurs, justement, pour lui. Les valeurs, c'est les valeurs. Nous avons les Christ, ses commandements et la Bible qui nous guide, pas des gens intelligents, etc. Nous nous posons sur l'intérieur, c'est la vie intérieure. Être, disons, modifié. Parce que toutes sortes de mariages avec des homosexuels, c'est exclu de toute façon. Pour les enfants déjà à 11 ans, exposés à des pornographies, ils donnent une chose terrible pour après, pour leur futur vie sexuelle. Tout ça, et on voulait continuer. La famille, la valeur de famille est tout à fait dégradée par toutes sortes de lois.
Merci. Alors, merci, madame. Merci. Alors, nos deux invités, donc, si je résume, la première interrogation, une troisième génération, point d'interrogation, et puis l'autre question portait plutôt sur le lien entre valeurs catholiques et valeurs universelles à propos de la bioéthique. Qui veut répondre de vous deux ? Denis, vous voulez répondre ?
En deux mots. Je vais essayer d'être bref. Hein. Je vais être bref. Alors, la question de l'écologie est extrêmement intéressante. Alors, vous savez tous pourquoi, parce que parce qu'il y a une congruence dans le discours catholique magistériel sur l'écologie entre la défense de la biodiversité et le combat contre les politiques de genre et le combat contre les politiques de la vie. Ça, c'est bien connu. Donc, il y a une ambiguïté. Une fois cette ambiguïté posée, et on ne va peut-être pas en parler maintenant, mais cette ambiguïté fait de la question de la défense de la biodiversité un lieu commun. Le lieu commun, c'est très intéressant. C'est le mot qu'on a en commun. Moi, je trouve qu'il faut défendre les lieux communs. C'est le mot qu'on a en commun, mais sur le contenu duquel on n'est pas forcément d'accord. Et donc, ça fabrique de la démocratie. Et je continue de penser que oui, ça me permet de basculer sur la question des trois générations. Ben oui, il y a eu plusieurs générations successives. Et je dirais, oui, je vois bien comment Albert Rouet peut dire génération de gauche, réception de gauche, puis réception de droite. Mais à l'époque de la réception de gauche, c'était dans le cadre d'un combat. Et à l'époque de la réception plutôt de droite et de conservatrice, c'est dans le cadre d'un combat qui est plus masqué, parce que justement, on est dans cette phase un peu silencieuse. Mais ce que je retiens, moi, de cette histoire de la réception du Concile et des générations successives, c'est que... pendant longtemps, j'ai pensé que le débat sur le Concile, que la réception du Concile avait été à peu près bouclée autour de 2003-2004, notamment quand je travaillais sur les débats qui avaient eu lieu à ce moment-là autour de la manière de faire l'histoire du Concile. En fait, ce qui se passe, c'est que non, c'est pas terminé, que le débat se continue. Et ce à quoi je suis de plus en plus sensible, c'est la manière dont la combinaison entre le texte sur la liberté religieuse, d'une part, et le texte sur les religions non chrétiennes, d'autre part, permet aux catholiques de sortir de quelque chose qui les a beaucoup, qui était très compliqué à gérer auparavant, qui est lié à l'utopie missionnaire, qui est la contradiction entre l'idée qu'un jour le monde entier sera chrétien et le constat que la pluralité religieuse résiste au temps et qu'en plus la croyance augmente. Et il me semble que dans la combinaison entre l'idée de la liberté religieuse d'une part, d'autre part, le texte sur le dialogue avec les non-chrétiens, il y a la possibilité de sortir de cette contradiction. Ça, ça fait partie des éléments de réception du Concile que je trouve très intéressant. C'est pourquoi le dialogue avec le judaïsme est devenu un dialogue si important. Mais pas seulement, parce que le dialogue avec le judaïsme pose ce genre de questions-là, mais dans le cadre d'une histoire qui est l'histoire sainte. Mais ça vaut aussi pour le dialogue avec le reste. Ça, je trouve ça. Et vous voyez, alors, et pour dire une dernière chose, oui, je pense que les questions de famille sont devenues des questions importantes, hein, je ne veux pas éluder la question, mais pour dire une dernière chose, très rapidement, le pape François est un pape politique. Évidemment, c'est quelqu'un qui a été formé au contact de l'une dictature, il sait ce que c'est que la politique, et il est engagé dans un combat, vous le savez tous, et ce que je trouve très intéressant, c'est comment ce combat est un combat global. encore une fois. C'est-à-dire que ça se passe à la Curie, ça se passe aussi dans des alliances entre des catholiques, une partie des catholicités du Sud qui n'acceptent pas du tout l'idée que l'Europe imposerait son libéralisme, et la partie la plus, on va dire, la plus conservatrice. Et quand je dis ça, c'est pas critique. Hein. On a le droit d'être conservateur. Enfin, on a le droit de penser que c'est ça la foi. C'est pas mon problème. Mais il y a des alliances qui sont des alliances globales. Et je pense que la difficulté et l'intérêt du pontificat de François est là, dans cette espèce de combat de quelqu'un qui sait que son temps est compté, parce qu'il est devenu pape à 76 ans. Il me semble que c'est 76. Voilà.
Pas d'autres questions, vous pouvez ajouter brièvement.
Oui, quelques éléments. C'est vrai, Denis a eu raison de beaucoup insister sur cette dimension globale qui est capitale. C'est vrai que moi, dans mon livre, je prends une position un peu internaliste, c'est-à-dire que j'ai voulu montrer ce développement histoire, enfin le développement de cette dynamique militante de l'intérieur, mais ça n'est absolument pas la seule perspective ni nécessaire ni suffisante. Et la dimension globale est tout à fait capitale et elle est devenue une ressource du rapport de force interne à l'Église. Aujourd'hui, c'est très intéressant de voir à quel point ces courants catholiques, un peu conservateurs, ceux que j'appelle les observants, effectivement peuvent avoir une certaine défiance à l'égard du pape François. Et aujourd'hui, leur pop star, c'est le cardinal Robert Sarah, par exemple. Alors là, on voit bien les alliances entre un conservatisme européen et le Sud. Donc y a la dimension globale, elle joue à l'intérieur. Alors, sur le pape François, c'est vrai que c'est important d'en parler, parce qu'on n'avait pas du tout parlé. Comment est-ce que ça se joue au sein du catholicisme que j'ai étudié? Ils se sont construits comme des catholiques ultramontains sous les pontificats de Jean-Paul II et Benoît XVI. Or, ce que l'on voit, c'est que la fidélité au pape est toujours une fidélité relative et correspond toujours au rapport de force. Et qu'à partir du... Et ce qui a été très intéressant après l'élection du pape François, moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir des groupes catholiques, dont je suis certain que certains parmi vous connaissent, dont on entendait, qui étaient vraiment dans la critique du pape depuis, une critique du pape ancrée depuis des décennies, et qui ont fait des manifestations quasiment de papolatrie incroyable, je pense à Saint-Méry par exemple, et des choses très stupéfiantes, en fait, d'écrire des textes pour soutenir le pape, et des choses. Donc ce qui montre bien qu'il n'y a pas en soi des courants catholiques qui seraient plus papistes que d'autres, tout ça s'inscrit dans un rapport de force et ça s'inscrit dans le rapport au pape. Alors, ces catholiques conservateurs, certains ils se sont construits dans la fidélité au pape et par conséquent, certains sont déplacés par le pape François parce qu'ils veulent rester papistes. Et ils sont déplacés. Et puis, et donc ça fait évoluer leurs convictions. Et là, il y a quelque chose aussi qui joue en même temps, c'est les effets d'hybridation qui se jouent avec l'arrivée au centre de ce catholicisme observant. Ce catholicisme observant, il s'est construit dans les marges. Donc, il avait une culture contestataire. Aujourd'hui, en arrivant progressivement au centre de l'institution, parce qu'il y a de plus en plus d'évêques, même s'ils restent minoritaires, qui proviennent de ce courant, eh ben ça désarme toute une culture contestataire. Quelque chose qui est très intéressant, c'est par exemple d'observer la trajectoire d'un certain nombre de prêtres qui ont été formés dans des séminaires traditionnalistes. Par exemple, prenons ceux de la Fraternité Saint-Pierre du diocèse de Versailles. Eh ben, un certain nombre ont choisi de se faire incardiner. Et donc, et leur institutionnalisation, finalement, les conduit à des acceptations ou à des renégociations de fidélité qui, pour eux, étaient essentielles. Donc, il y a un mouvement comme ça d'hybridation avec le glissement au centre de ces marges qui se joue. Et donc, je pense aussi que voilà, le pape François intègre ce type de mouvement-là. Il y a des déplacements qui se font, mais il y a aussi des réticences. Et on voit émerger une forme de néo-gallicanisme aujourd'hui qui s'appuie sur la critique du pape François. Et surtout, ce que je trouve très intéressant pour faire un peu un parallèle, c'est que chez ces catholiques conservateurs, on voit qu'ils ont dans le rapport au discours du pape François sur les migrants exactement, je dirais, le même ordre de critique qu'avaient des catholiques contestataires à l'égard d'Humanévité de Paul VI. Cette accusation d'un magistère qui vient réduire le champ de l'exercice de la conscience. Et donc vous voyez à quel point c'est amusant de mettre ces groupes, de les mettre en côte à côte, puisque alors que les uns se font de la fidélité, dire humanévité bien sûr, mais finalement, à l'égard du discours sur les migrants, ils font la même chose que ceux qu'ils critiquaient. Et ce que je veux dire. Donc, il y a là l'affirmation d'une forme de néo-gallicanisme, mais il y a des choses qui se déplacent. Ensuite, voilà, moi j'ai un point de vue où je suis assez réservé sur les effets que l'on prête au pape, et je pense que beaucoup de choses, enfin le catholicisme, ces dynamiques essentielles reposent dans la base, reposent sur les mouvements de laïcs. Et en ce sens, les observants, sans être hostiles au Concile Vatican II, mais en étant réservés à l'égard de sa mise en œuvre, en sont, peut-être malgré eux, tout dépend desquels on parle, pleinement les héritiers, parce que c'est une dynamique complète de laïcs. Et ils se sont construits comme un mouvement anticlérical dans les années 70. Aujourd'hui, parce que leur position dans le rapport de force a changé, ils deviennent un peu cléricaux.
À vous la parole, deuxième session. Henri.
Oui, bonsoir, je m'appelle Henri Tinck. Voilà, je voudrais revenir sur la différence de travail en celui en profondeur des chercheurs que vous êtes et celui plus branché sur les événements qui viennent d'arriver, l'actualité, qui est le travail des journalistes. Voilà, je vois bien l'analyse que vous faites, mais qui prend ses racines dans des événements qui remontent peut-être à une dizaine d'années. Vous avez parlé de la manif pour tous et la candidature Fillon, le sens commun. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas des événements un peu plus récents qui, non pas bouleversent votre analyse, mais qui infléchissent un peu d'une certaine façon votre analyse? J'en cite trois. La candidature et la présidence Macron, qui déstabilise quand même le vote catholique, on l'a vu en 17 et on l'a vu plus encore il y a quelques jours aux européennes. Deuxièmement, l'échec de la candidature Bellamy aux européennes, qui était porteuse justement d'une droite sociétale, celle qui inspire largement votre analyse. Et puis la troisième chose dont vous parlez peu, c'est la crise des abus sexuels qui déstabilise les catholiques dans leur ensemble et qui disqualifie un peu la parole de l'Église, des évêques comme des communautés. Qu'est-ce qu'on va faire face à une question comme la PMA pour toutes les femmes? Est-ce qu'on risque de retrouver ou pas les manifestations de 2012-2013 contre le mariage pour tous? Personnellement, je ne le pense pas, parce que ce catholicisme-là, il est un peu effondré par la crise et il est un peu disqualifié. Voilà ma question.
Une autre question, oui. Alors, une autre question, puis là, il y a déjà matière, bien sûr.
Deux questions sur les effets de décalage aujourd'hui qui surviennent récemment et qui peuvent remettre en cause la grille d'interprétation catholique de droite de gauche. Le premier, c'est le décalage croissant entre l'offre politique et les priorités catholiques, où il y a, parmi notamment la jeune génération, mais pas uniquement, des exigences très fortes sur à la fois un conservatisme sociétal et sur les priorités écologiques. Ça a déjà été dit. Or, aujourd'hui, dans l'offre politique, il n'y a pas d'offre politique correspondant à ces deux priorités. Donc la question, c'est un peu de quel côté, quelle est la priorité qui va devoir laisser passer au second rang de façon à pouvoir exprimer un choix politique de la part de ces générations catholiques. Le deuxième, c'est le décalage entre la population croyante et l'institution elle-même, et notamment le réseau paroissial. On a bien dit qu'on est passé dans un catholicisme post-sacramentel. En fait, l'impression qu'on peut avoir sur le terrain, c'est que la pratique religieuse se fait, au moins dans les centres urbains, de manière de plus en plus affinitaire. Et donc, le décrochage religieux est aggravé par cette pratique affinitaire, sauf quand on arrive à trouver quelques petits espaces à côté de l'institution, mais ça reste le fait d'une petite minorité. Et comment dans ce décrochage, ces nouvelles modes d'appartenance que certains ont appelé l'Église liquide, je sais que c'est un thème qui fait débat aujourd'hui. Dans cette nouvelle configuration, les populations les plus ouvertes sont en situation fragile face notamment aux nouvelles générations prêtres qui aujourd'hui sont, et ça a été déjà un petit peu dit, sont en train de tenir l'institution.
Merci. Alors il y a déjà beaucoup de choses bien sûr dans ces deux questions. Alors là je vais solliciter mes invités. Donc le premier point c'est les approches liées à l'actualité récente, Macron, Mélanie, abus sexuels, etc. Puis l'autre approche, enfin les éléments bien sûr. Vous les avez entendus comment les interventions liées notamment au réseau paroissial, au décalage, etc. Qui veut commencer de Denis ou de Yann?
Bon, alors je vais prendre les. Moi je ne suis pas journaliste, donc que ce soit clair, le commentaire n'est pas mon métier. En revanche, déconstruire les commentaires des journalistes, ça m'occupe beaucoup. Et tout ce que j'ai montré dans mon livre, c'est à quel point Sens commun, Fillon, tout ça, c'est en grande partie une bulle médiatique. Une bulle médiatique où on a construit Fillon comme une candidature catholique, comme... Alors, bien sûr, il a joué aussi de ça, mais ça a été surconstruit médiatiquement. On a accordé un rôle à Sens commun totalement exorbitant par rapport à son rôle réel, qui n'est pas rien non plus, hein, mais voilà, les questions de mesure sont très importantes. Et donc, ça m'a amusé de voir, entre autres, Laurent Geoffrin jubiler de l'échec de Bellamy, mais en fait, c'est l'effondrement d'une bulle que lui-même a contribué à construire. Parce que, quand on travaille en interne, moi, ce que je vois surtout dans le rapport de force au sein des droites catholiques aujourd'hui, c'est le triomphe de ceux qui affirmaient que le Rassemblement national était la meilleure écurie pour la droite conservatrice. Parce qu'il faut bien se dire qu'au sein de ces droites, qui sont des univers réduits de militants, et ce n'est pas les élections qui permettent de mesurer leur influence, au sein de ces univers réduits, beaucoup disaient que voilà, il fallait en finir avec les Républicains, qu'il fallait rejoindre le Front National, et l'échec. Et donc, ils ont dénoncé l'échec de Bellamy, comme ils avaient dénoncé Sens commun auparavant. Voilà, on a beaucoup parlé de François Fillon, mais on a oublié qu'il y avait Jean-Frédéric Poisson qui se présentait à la candidature et qui cherchait à incarner ce courant aussi. Donc voilà, tout ça est plus complexe. Et au sein de ce rapport de force des droites conservatrices, Sens commun, pour l'instant, était un frein au glissement d'une partie de cet électorat et de ces militants-là vers le Front National. Aujourd'hui, que effectivement la position de Sens commun n'a plus beaucoup d'intérêt au sein de LR, vu que le but du ralliement à LR, c'était d'accéder au pouvoir avec un parti de gouvernement, je crains que ça ne fasse le triomphe du courant qui visait le Rassemblement national et dont beaucoup ont jubilé lors des européennes. Donc moi, je vois ça aussi. Il n'y a pas que Bélanie. Ensuite, la crise des abus sexuels. Bien sûr qu'elle a un impact parce que, global, je dirais, parce qu'elle sape, je dirais, les quatre piliers sur lesquels Jean-Paul II a tenté de reconstruire la légitimité de l'Église depuis les années 70. La centralité romaine, qui aujourd'hui, on voit bien, a abouti à blanchir un certain nombre de prêtres criminels. Les communautés nouvelles, dans lesquelles il y a une série d'abus tout à fait édifiantes. La jeunesse, avec les JMJ, bon, bah, aujourd'hui, la jeunesse, voilà, pas besoin d'argumenter. C'est un peu discrédité. Et puis la morale sexuelle. Voilà. Mais ensuite, ok, ça, effectivement, c'est sapé. Et là-dessus, la parole ne pourra plus être la même. Et bien sûr que ça va jouer sur les combats bioéthiques futurs. C'est évident. Mais il ne faut pas non plus confondre la partie avec le tout. Et là-dedans, il y a quelque chose de très clérical aussi dans cette crise des abus sexuels. Et par conséquent, les laïcs sont aussi très révoltés contre ça, et révoltés parce que eux, leurs convictions, ce qu'ils vivent comme leurs convictions, qui ne sont pas que les convictions de l'institution, se trouvent discréditées en raison des clercs. Mais ils les porteront quand même. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir les... Alors là, je m'appuie sur le travail des journalistes, parce que je n'ai pas d'enquête. Tous les départs affichés en raison de ces crises d'abus sexuels. Il y a eu des articles intéressants de la Croix sur les hausses de demandes de débaptisation. C'est-à-dire que là, depuis le début de l'année, on a un niveau... exceptionnel par rapport aux années précédentes, mais ces débaptisations touchent des gens qui étaient déjà partis. Et de la même manière, j'ai entendu beaucoup de gens qui, de fait, étaient étaient déjà en marge. J'ai entendu beaucoup de gens qui n'avaient aucune pratique sacramentelle pour la plupart. Et j'ai entendu aussi beaucoup de gens dire « je n'en peux plus de cette église réactionnaire, etc. » et qui partent. Et donc ce sont toujours, appelons-le comme on veut, les libéraux, les réformateurs qui partent. Les conservateurs, eux, dans les situations de crise, ils restent toujours. Ce qui fait que ça ne change pas. Les dynamiques que j'ai décrites, je ne crois pas du tout qu'elles soient impactées par la crise des abus sexuels. Au contraire, elles contribuent à accélérer les tendances à une recomposition du côté des conservateurs. Voilà, j'ai peut-être déjà beaucoup parlé. Oui, Vincent.
La parole à Denis. Ouais. Denis Pelletier.
Non, je pense que c'est pas.
Non, je pense que c'est pas. Je suis pas d'accord avec toi, Yann. Je pense que c'est pas les journalistes qui ont construit la bulle médiatique autour de Sens commun et autour de LBT. C'est Sens commun et LBT. D'abord et avant tout. Et c'est pas Geoffrin qui s'est tourné vers Mélanie. C'est Vauquier. Je pense que non, c'est pas. Et je trouve, je suis désolé de dire, parce que ça se fait pas et puis que ça va paraître faillot, mais je trouve que dans les débats. Dans les débats autour de la question terroriste, dans les débats autour en général, et dans les séries de débats dont on a parlé depuis tout à l'heure, je trouve que la presse fait assez bien son boulot. Et moi, je suis frappé, je lis beaucoup la presse, je lis 3 journaux chaque jour, d'orientations différentes, et je suis frappé du fait que la presse fait assez bien son boulot. Après, oui, on est des chercheurs, donc on est agacé. Et je trouve que la presse fait assez bien sous l'eau, mais j'irai un tout petit peu plus loin. Je trouve que la société française réagit assez bien à la situation extrêmement difficile dans laquelle elle est. Et jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas élu ni un Bolsonaro, ni un Trump. On a élu un Macron, ce qui me permet de dire un mot de Macron, puisque la question a été posée à propos de Macron. Macron, c'est compliqué d'en parler parce que Macron est un champion du storytelling. C'est-à-dire qu'il parle pour ce qu'on va dire de lui. Donc c'est compliqué d'en parler. On est toujours à son service, dès qu'on en parle. Et il faut faire attention à ça. Ça, c'est une remarque d'historien. Voilà, il faut faire attention à ça. Mais je pense que dans l'attention que porte Emmanuel Macron à la question au catholicisme et, voilà, et à la place des religions dans la laïcité, etc., etc., il y a tout ce dont on a parlé, auquel il est sensible, parce que c'est un politique cultivé, intelligent. Donc je pense qu'il y a ça. Je pense qu'effectivement, dans l'attention qu'il a apportée aux catholiques il y a quelque temps, quand il est allé parler aux Bernardins, sauf erreur de ma part, il y avait le souci de déliner la question de la PMA. Et je suis convaincu qu'il y a aussi la conscience qu'il a qu'autour des enjeux d'environnement et de protestation environnementale et de radicalisation environnementale, penser à cette espèce de jeu de radicalisation environnementale qui est en train de se faire dans la société, à juste titre d'ailleurs, et aux difficultés que ça va nous poser dans quelques années en termes de, je sais pas, en termes d'ordre social. Très bonne raison. On ne va pas vers des années faciles. Sur la question des réfugiés aussi, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que l'attention qu'a Macron au catholicisme est liée à tout ça. Mais encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de penser quand je dis ça que je suis en train de faire le storytelling qui souhaite que je fasse de lui. C'est un politique. Je continue, mais je vais très vite. Sur l'échec Bellamy, il est surtout intéressant parce que c'est le deuxième de suite après Fillon. Et que l'échec de Fillon au présidentiel, on peut l'imputer à autre chose. Il y a le problème de ce qu'a fait Fillon. Et l'échec de Bellamy, c'est vraiment l'échec d'une stratégie. Et d'une stratégie selon laquelle la droite doit s'allier avec. La droite doit s'allier, doit se réarmer au plan des valeurs en s'appuyant sur un catholicisme conservateur. Ça fait 2 fois que ça arrive. Je pense que voilà, c'est un point. Moi, je suis historien, je ne prévois pas, mais c'est un point qui est réel. Et de là, en quelques mots, et c'est très difficile de parler de la crise des abus sexuels en quelques mots, j'hésite un peu à répondre, mais je vais dire simplement quelques mots. Premièrement, c'est par excellence une crise d'appareil. C'est une crise d'institution. 90% des prêtres, 95-98% des prêtres, ne sont pas concernés. Ils sont en train de se dire, comment est-ce que je vais faire pour prêcher, laisser venir à moi les petits-enfants. Les fidèles ne sont pas concernés. C'est une crise d'appareil. Et cette crise d'appareil pose des questions profondes sur le fonctionnement de l'institution. Et ce n'est pas seulement, Yann, ce n'est pas seulement la question des communautés charismatiques, etc., etc. C'est aussi la question de la structuration masculine du pouvoir à l'intérieur de l'Église. Parce que la pédophilie, c'est une violence masculine. Dans, selon les statistiques américaines, 76% des cas pour certaines enquêtes et 96% des cas dans d'autres enquêtes, ils ne sont pas d'accord entre eux, il n'y a pas d'enquête française. Mais c'est une violence masculine. Et on est dans une société de violence masculine. La société ecclésiale telle qu'elle se construit, en l'occurrence. Et là, il y a de véritables questions qui sont posées, et qui sont des questions de théologie, et qui sont des questions d'ecclésiologie. Et ces questions de théologie et d'ecclésiologie, elles font partie du débat. Et elles sont aussi un moyen de répondre à la question que posait tout à l'heure, ça y est, j'ai oublié ton prénom, pourtant ça fait des années qu'on travaille ensemble.
Vincent.
C'est aussi une manière de répondre à la question que posait Vincent. C'est-à-dire, la question du décalage entre l'institution et les fidèles, eh bien oui, il faut tout de même la poser. Et ce ne sont pas, si tu veux, là où je me sépare un peu de toi, Yann, c'est que je pense que, oui, tu as raison de dire que la tendance lourde d'une institution, c'est de systématiquement se réorganiser autour de ceux qui adhèrent le plus fortement au fonctionnement de l'institution telle qu'il est. Et là, il y a une pente. Et moi, je pense aussi que dans l'histoire du catholicisme, il y a un lien, il y a la part que les catholiques ont pris à la fabrique de la démocratie en Europe occidentale. Et je ne vois pas pourquoi on ferait, abstraction de cette dimension-là. Et je pense que, après, je ne sais pas ce qui va se passer, encore une fois, je suis historien, mais c'est la raison pour laquelle la question, mis à part, on est tous d'accord pour dire que ces crimes de pédophilie, ces violences envers les bonnes sœurs, ces questions-là sont épouvantables. Donc voilà, on est tous d'accord là-dessus. Et à l'intérieur de l'Église, tout le monde est d'accord là-dessus. Ensuite, que cherchent à faire les évêques et de quelle marge de manœuvre disposent-ils dans un cadre globalisé où la question du pouvoir masculin ne se pose pas seulement en France. Et ça, bah c'est un véritable enjeu. Et je trouve que c'est un enjeu intéressant parce que pour moi, c'est un enjeu ecclésiologique au sens le plus fort du terme. Je pense que les grands débats théologiques depuis un bon siècle et peut-être plus, mais d'autres que moi dans la salle me le diront, ce sont des vrais débats. Les grands débats théologiques sont des débats d'ecclésiologie.
Merci. J'imagine que nous allons laisser quelques-uns d'entre vous sur leur faim puisque le temps s'écoule malheureusement. Je pense que nous aurons d'autres occasions de revenir sur ces sujets. Il me reste à remercier Denis Pelletier et Anne Raison du Clusiou. Je crois que ça a bien apporté une conclusion à cette série de l'année après justement les élections européennes. Si vous avez vos agendas ouverts ou si vous apprêtez à les ouvrir, je vais vous signaler les dates de nos prochains rendez-vous puisque l'affaire n'est pas finie à confrontation. Ça redémarre en septembre, le 18 septembre, le 16 octobre et le 20 novembre, donc en gros au milieu du mois, les mercredis. C'est toujours le deuxième ou le troisième ? Le troisième, toujours les troisièmes mercredis du mois. Voilà. Donc 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre. Et cette série sera consacrée, vous allez peut-être le deviner, vu l'actualité encore, aux questions de bioéthique. Voilà. Merci pour cette présence et merci à l'humanité.